Bonjour chers auditeurs, Catherine Mann au micro pour l'Esprit du Livre, une émission qui vous présente chaque mois quelques livres de parution récente qui concernent directement ou indirectement la foi chrétienne. Et voici d'abord le père Roger Willem qui vous présente un premier ouvrage.
Dans la mission L'Esprit du Livre, voici un premier livre que nous recommandons, Quatuor mystique de Charlotte Jusseaume, paru aux éditions du Cerf au printemps 2017. Jean de la Croix, Pierre Théard de Chardin, Silouane de Latos, Maurice Zindel, ils sont tous quatre comme la nuit, tous les quatre. Leur vie a basculé dans le néant. Leur destinée a échappé au regard, leur voix a tourné au silence. Ils en sont ressortis, porteurs d'une lumière vive, ni traité mystique, ni récit hagiographique. Quatuor mystique est une évocation littéraire d'un moment fort de leur prière d'homme dans ce qu'elle a d'intime et de personnel. L'auteur Charlotte Jusseaume y interprète avec toute son écoute, ses mots et son doigté de femme, la musique intérieure chantée dans leur profondeur. Un livre, oui, qui est un fruit de rencontres spontanées, qui interroge notre alliance avec le vivant. Comment trouver en soi la vraie liberté intérieure, comment englober dans notre prière la terre et l'univers, comment traverser les ténèbres pour voir se lever l'aurore d'un jour nouveau, comment prier pour la paix en ce monde. Voici un passage au terme de ce livre. Jean, Pierre, Silouane, Maurice, tous quatre ont rencontré personnellement le Christ, visant d'un courage. Ils ont osé ruminer cette rencontre sans être d'emblée compris et accueillis. Il est vrai que rencontrer le Christ est une affaire entièrement personnelle et comme chaque personne est unique, c'est une rencontre unique, une affaire tout à fait spéciale. Il y a autant de rencontres qu'il y a de personnes, un nombre infini de rencontres. À chacun d'entre nous de nous laisser interroger et de répondre à sa question. Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je ?
Je vous présente à mon tour un livre dont la bibliothèque diocésaine de Chartres vient de faire l'acquisition et dont le titre est « Corps et âme, une histoire de la personne au Moyen-Âge ». C'est un livre qui est paru en septembre 2016 donc assez récent, aux éditions Flammarion, dans la collection Au fil de l'histoire. Il est écrit par Jérôme Bachet, qui est historien spécialiste du Moyen-Âge, maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, ainsi qu'enseignant, chose étonnante, à l'Université autonome du Chiapas au Mexique, où il vit d'ailleurs la plus grande partie de l'année. C'est un historien déjà renommé, bien qu'il soit encore jeune, puisque son précédent livre, La civilisation féodale, est devenu un ouvrage de référence de l'histoire médiévale. Cela dit, il me paraît presque dommage que le présent livre, Corps et âme, soit limité à être présenté comme un livre d'histoire. Parce que tout le travail d'historien, qui est bien sûr d'une remarquable érudition, et qui prend largement la moitié du livre, s'inscrit dans un projet qui déborde largement l'intérêt purement historique. En fait, Jérôme Bachet va chercher dans l'histoire médiévale des arguments utiles pour l'évolution de notre monde d'aujourd'hui. Il s'agit pour lui d'accompagner un changement de civilisation, dit-il, défaire la triple dissociation qui est fondatrice de l'Occident, dont il démontre qu'elle est due à la philosophie de Descartes et à ses contemporains, qui furent en rupture totale avec l'esprit du Moyen-Âge. Donc, il s'inscrit dans un mouvement de pensée assez récent qui veut dépasser l'opposition homme-nature, qui refuse le dualisme et le conflit âme-corps, et surtout qui combat l'égocentrisme d'une pensée fermée sur elle-même telle que la concevait Descartes. Tout cela aboutit à une notion, je cite, de monisme relationaliste. Alors le mot est peut-être un peu rébarbatif, mais cela recouvre une idée de la personne humaine trans-individuelle, ouverte à la dimension relationnelle, non seulement avec la collectivité humaine, mais aussi avec l'environnement. Je vous lis quelques lignes de l'auteur. L'idée d'une conception relationnelle de la personne a guidé ce livre de bout en bout. Insistons encore, ce n'est pas dire qu'il y a d'abord la personne et ensuite les liens qu'elle noue avec d'autres personnes ou instances. On parle ici de relations qui sont constitutives de la personne. On traite de relations qui préexistent à la personne et par lesquelles elle accède à l'existence. Voilà, donc l'histoire médiévale sert ici à montrer des erreurs de l'Occident chrétien qui commence déjà avec une mauvaise interprétation de saint Paul et une certaine diabolisation du corps, mais dont surtout les XIIe et XIIIe siècles ont été un moment crucial puisqu'elles ont voulu s'opposer à cette dualité et en proposant une vision heureuse et harmonieuse de la relation âme-corps à l'image du rapport d'amour du Christ et de l'Église. Donc c'est sur ces XIIe et XIIIe siècles que l'auteur met l'accent. Il faut rappeler que c'est à cette époque, en 1215 exactement, que le Concile de Latran a institué le sacrement du mariage, qui n'existait pas avant. On comprend donc que le modèle du mariage comme dualité unifiée dans une relation heureuse et épanouissante va dépasser largement la communauté ecclésiale et va imprégner toute la société médiévale à partir du XIIIe siècle. Toute la fin du Moyen-Âge refusera en grande majorité les idées dualistes qui méprisent le corps et la matière, préférant l'idée de dualité pour articuler positivement le spirituel et le corporel. La Renaissance encore exaltera l'homme intégral, microcosme, à l'image de la création en bonne relation avec son créateur. Tout bascule donc au XVIIe siècle, où le dualisme s'impose en maître, chez Descartes bien sûr, où le corps est présenté comme une pure machine, l'âme devenant pensante de manière isolée et la personne se ferme sur elle-même, en opposition avec la nature, voire en conflit, et engendre la civilisation occidentale rationaliste que l'on connaît toujours aujourd'hui. Mais Jérôme Bachet va plus loin, dans une démarche comparatiste, qui fait la dernière partie du livre, il interroge les autres civilisations du monde. Alors, non pas pour les trouver absolument meilleures, mais pour en tirer des leçons pour faire évoluer notre monde vers une vie meilleure. On sent une pensée sous-jacente assez universalisante, où chaque culture pourrait apporter ses compétences particulières. Celle de l'Occident étant quand même intégrée dans ce tableau pour le développement des individualités, mais en l'inscrivant dans un dépassement de l'opposition individu-collectif, donc de l'individu face au collectif. Je cite encore quelques phrases. « La conception relationnelle de la personne permet de dépasser la dissociation même de l'individuel et du collectif. » Non parce qu'on nierait toute différence entre l'un et l'autre, mais parce qu'une telle approche oblige à reconnaître qu'ils s'instaurent l'un par l'autre plutôt que l'un contre l'autre. On le comprendra ainsi, des individualités constituées par le « nous » traversées par le collectif. Sur une telle base, rien n'interdit de viser à la fois plus d'individualité et plus de collectif. Voilà, après cette citation, vous remarquez sans doute à quel point les aspirations de l'auteur rejoignent les préoccupations de l'Église d'aujourd'hui. La relation qui est déjà présente au sein de la Trinité, comme d'ailleurs Jérôme Bachet le raconte de ci de là dans son ouvrage, il fait des évocations de la théologie trinitaire. Donc ça me semble une bonne raison de lire ce livre que vous trouverez à la bibliothèque diocésaine à Chartres. Je vous en rappelle le titre. « Corps et âme, une histoire de la personne au Moyen-Âge » de Jérôme Bachet.
Not our kind will.
Voici maintenant le Père Willem qui vous présente son deuxième ouvrage.
La nature exposée, c'est un roman, d'Herri de Lucas, paru chez Gallimard, en mars 2017. Né à Naples en 1950, Herri de Lucas est écrivain, poète et traducteur. Il est l'auteur d'une œuvre abondante publiée par les éditions Gallimard et partout dans le monde, dont les romans Monte di Dio, paru en 2002, et Le poids du papillon en 2010, ou plus récemment, son recueil de textes autobiographiques Le plus et le moins, paru en 2016. C'est une réflexion sur le sacré et le profane, sur la place de la religion dans nos sociétés. La nature exposée est un roman dense et puissant dans lequel Herri de Lucas souligne plus que jamais le besoin universel de solidarité et de compassion. La nuit, les pensées sont volontiers changeantes. La tête vide est un pâturage pour leur paisible rumination. La silhouette crucifiée réapparaît entre les branches de la Voie lactée. Celui qui meurt ne se sent pas mourir lui-même et sent mourir le monde, les personnes tout autour, les jours, les nuits, les planètes, les mers. Celui qui meurt sans s'éteindre l'univers hors de lui, c'est la miséricorde offerte à chaque mort qui dissout le désespoir dans l'immensité de toutes les extinctions.
My sparrow hath no peer, for sit she high or sit she low, be she far off or be she near, there is no bird so fair, so fine, nor yet so fresh as this of mine. For when she once hath felt the fit, Philip will cry still yet. For when she once hath felt the fit, Philip will cry still yet. She never wanders far abroad, but is at home when I do call. If I command, she lays on load, with lips, with teeth, with tongue and all. She chants, she chirps, she makes such cheer, that I believe she hath no fear. For when she once hath felt the fit, Philip will cry still yet. For when she once hath felt the fit, Philip will cry still yet. And to tell truth he were to blame, having so fine a bird as she, to make him all this goodly game, without suspect or jealousy. He were a churl and knew no good, would see her faint for lack of food. For when she once hath felt the fit, Philip will cry still yet. For when she once hath felt the fit, Philip will cry still yet.
Pour terminer donc notre série, je vous présente un deuxième livre que la bibliothèque diocésaine vient d'acquérir. Il s'agit d'un autre livre d'histoire dont le titre est Les premiers bâtisseurs de l'Église, sous-titre Correspondance épiscopale des 2e et 3e siècles. Livre de Marie-Françoise Basselès paru aux éditions Fayard dans la collection Histoire en septembre 2016. Alors, quand on dit correspondance épiscopale, il s'agit du courrier des évêques au 2e et 3e siècle. Marie-Françoise Basselès est historienne des religions, spécialiste de grande renommée pour l'Antiquité et le christianisme ancien, également professeure émérite à l'Université de Paris-Sorbonne. Elle a déjà écrit plusieurs livres de référence, dont une admirable biographie de saint Paul, en 1991, et aussi l'excellent « Comment notre monde est devenu chrétien » paru en 2011. Dans ce livre-ci, tout récent, donc « Les premiers bâtisseurs de l'Église », elle s'intéresse à un domaine encore très peu exploré par les historiens, celui de la vie des églises locales dans les premiers siècles, donc de l'histoire des chrétiens ordinaires, jusqu'à l'émergence progressive de la fonction épiscopale et du rôle que les évêques vont jouer dans la construction de l'Église naissante. L'enquête de Marie-Françoise Basselès commence au IIe siècle, après la disparition des générations qui ont eu un témoignage oculaire direct à transmettre pour la naissance du christianisme. L'écrit prend alors de plus en plus de place, et c'est là que commence l'élaboration d'un canon normatif des textes qui vont devenir le Nouveau Testament. Les communautés chrétiennes sont toujours en continuelle expansion et pour s'organiser, elles bénéficient encore de l'organisation de l'Empire romain, où il y a, quoi qu'on en pense, une relative tolérance vis-à-vis des cultes différents au début du premier, deuxième siècle. Ce n'est qu'au moment des invasions barbares, au troisième siècle, que l'attitude de l'Empire va changer complètement et que commence l'époque des grandes persécutions organisées alors officiellement. Les communautés chrétiennes doivent alors s'organiser différemment. Ne comptant plus que sur elles-mêmes, on voit grandir le rôle des évêques qui, entre autres, écrivent. Ils écrivent à leurs églises. Ils s'écrivaient les uns aux autres pour élaborer et transmettre les bases d'une institution et garantir l'orthodoxie de la foi. Donc la communication joue un très grand rôle dans l'affermissement des églises locales. Bien sûr, il ne faut pas minimiser les difficultés internes qui existaient, les tensions, les oppositions et les désaccords. Et même si quelques-uns des évêques furent aussi de grands écrivains, les premiers évêques étaient d'abord avant tout des praticiens en train de régler au coup par coup des problèmes qui pouvaient aller des simples faits divers aux plus grands problèmes théologiques. Ils élaborent donc très progressivement une théologie orthodoxe, non seulement en combattant des hérésies, mais aussi très concrètement en travaillant à la diffusion et à la circulation des livres qui allaient devenir canoniques. Il s'efforçait d'établir un consensus doctrinal, de le faire vivre et de fonder une manière cohérente et durable d'être en Église. Pour cela, les évêques ont tissé un véritable réseau relationnel, communiquant abondamment par lettres, mais aussi procédant à des rencontres, à des regroupements, soit par proximité, soit par affinité, car ils voulaient privilégier un fonctionnement collégial dans l'Église. On voit se construire petit à petit, mais pas sans difficulté, une Église dont l'unité admet et préserve la diversité des communautés. Rien à travers les lettres des évêques ne permet de dessiner le profil type de l'évêque idéal. Mais on les comprend ayant comme programme premier de défendre bien sûr la foi, mais aussi cherchant à apaiser les conflits et à définir une voie moyenne pour résoudre les dissidences. L'évêque apparaît donc plutôt comme l'homme de la rencontre et du dialogue et non pas de l'exclusion. Il y a pourtant, le livre nous le montre, des lettres violemment polémiques et même des lettres d'excommunication, dans certains cas, cas d'apostasie ou d'hérésie par exemple. Alors ces lettres d'excommunication, ce courrier se répandait partout, demandant donc de ne plus communiquer avec l'évêque considéré comme exclu de la communion, donc on lui envoyait plus de courrier. Mais malgré tout, le foisonnement des idées différentes et les divergences internes des débuts de l'Église pour définir la manière d'être chrétien ou de faire Église, l'autorité des évêques va se renforcer au fil des années, apparaissant ainsi à la tête d'un clergé local de plus en plus discipliné et hiérarchisé. Je termine en vous lisant quelques phrases de Marie-Françoise Bachelet elle-même. La pratique des conférences épiscopales est née de l'activité de ces hommes de réseau et de dialogue qui ont posé comme principe de régler collégialement les questions de discipline et de doctrine. Ils avaient conscience que le christianisme restait pluriel. Ainsi, une église en réseau s'organise spontanément en multipolarisation. Tout au plus peut-on parler d'un tropisme romain. Et un peu plus loin, les lettres déroulent devant le lecteur le film d'une église en construction que les évêques travaillent à édifier selon deux dynamiques. L'une fédérative, par la réunion des églises locales, l'autre inclusive, par une pastorale qui visait à la réintégration plutôt qu'à l'excommunication. Voilà, j'arrête là. C'est donc un livre résolument historique, mais vous voyez bien que malgré tout, il sert encore à éclairer les réflexions d'aujourd'hui sur tous les problèmes d'ecclésiologie, en tout cas en ce qui concerne la collégialité des évêques. Je vous en rappelle le titre, les premiers bâtisseurs de l'Église, correspondance épiscopale des 2e et 3e siècles de Marie-Françoise Bachelet, donc que vous trouverez à la bibliothèque diocésaine de Chartres, rue Saint-Aimant. Et je vous dis au revoir, chers auditeurs, et au mois prochain.
Oui. Comporte the Lord who can deal with never a penny of money. Here, good fellow, I drink to thee, hardly wash your bosom free, to all good fellows wherever they be, with never a penny of money. And he that will not pledge me this, hardly wash your bosom free. Pays for the shot, whatever it is, with never a penny of money. Charge it again, boy, charge it again. Pardon him, what your bosom free. As long as you have any ink in your pen, with never a penny of money. We be soldiers three. Parlez-moi, je vous en prie. Lately come forth of a low country with never a penny of money. Charge it again, boy, charge it again. Parlez-moi, je vous en prie. As long as you have any ink in your pen with never a penny of money. We be soldiers three. Pardonnez-moi, je vous en prie. Lately come forth of the low country with never a penny of money.